L'oracle du prophète Michée qui a ouvert notre liturgie de la parole aujourd'hui nous donne un fort contraste entre Bethléem, le moindre des clans de Judée, d'où sortira le Sauveur, le grand roi, le Messie. Cet oracle était connu du temps de Jésus, bien qu'il fût vieux de 7 siècles environ, quand les mages se sont présentés à Hérode pour venir adorer le nouveau-né, demandant où il était. Hérode interrogea les docteurs de la loi qui lui répondirent « Mais c'est à Bethléem ». Fort contraste, en effet. On le retrouve d'ailleurs dans l'Évangile au tout début de la vie publique de Jésus, dans l'Évangile selon saint Jean, quand Philippe, un des premiers appelés, rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et Nathanaël de lui répondre « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Nazareth, le lieu de la vie cachée de Jésus. Il y a donc ces contrastes qui allient l'action puissante, décisive de Dieu avec le concours d'une action, d'une situation humaine marqué par la faiblesse, pour ne pas dire parfois l'insignifiance. Et cela est une constante dans la Bible. Déjà dans l'Ancien Testament, et ça continue, et ce sera une constante du Nouveau Testament. Il y a là une alliance, peut-on dire, surprenante, qui va à l'encontre du sens commun selon lequel la puissance c'est l'efficacité et la faiblesse c'est le symbole de l'inefficacité. Or le Seigneur les conjoint toujours, et saint Paul le dira dans une formule lapidaire aux Corinthiens, sache bien, Paul, que c'est dans la faiblesse que ma puissance se déploie. Et ce sera la marque de la vie publique de Jésus qui s'accomplira, la lettre aux Hébreux vient de nous le rappeler, sur la croix. Sommet de la faiblesse humaine, manifestation de la puissance de Dieu. Notre esprit peut en être quand même dérouté. Une fois encore, où est le sens commun? Cela nous prépare directement à la célébration de Noël, mercredi prochain. Car voir dans une crèche un nouveau-né, même pas capable de parler, de se nourrir, de marcher, le salut du monde, n'est pas évident. Une fois encore, les représentations humaines, on le voit dans tous les panthéons que l'homme a érigés dans l'histoire, Dieu, c'est Zeus, c'est Jupiter. Et sa relation avec les hommes est une relation, oh certes, de puissance, mais enfin qui fait de nous des esclaves. Dans la crainte d'un châtiment épouvantable, ou comme si nous étions comme une marionnette agitée par les fils tenus par le prédigitateur. Voilà la relation que, raisonnablement, l'homme se fait de Dieu quand il existe avec l'homme. Rien de plus étranger, de plus contradictoire avec la vision biblique. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu joue-t-il ainsi avec les contradictions, dirons-nous ? Il faut, pour cela, méditer avec le bénéfice des quand même 2000 ans de christianisme qui nous précèdent. Nous ne sommes pas les premiers à nous poser ce genre de questions. Et la sagesse chrétienne s'est présentée devant ce mystère en y voyant des raisons qui tiennent à qui est Dieu véritablement et non pas les Zeus ou Jupiter, et qui est l'être humain aussi. Qui est Dieu ? Eh bien, agissant ainsi, Dieu qui se fait homme et même nouveau-né, c'est-à-dire qui prend en lui la faiblesse humaine, Dieu nous dit qui il est. Qui il est parce que jusqu'où va sa bonté ? Il va jusqu'à s'unir comme deux amis s'unissent à nous. Et d'une union plus encore profonde que deux amis, qui restent quand même deux personnes distinctes, c'est en lui qu'il s'unit toute l'humanité. Le Verbe incarné. Et ça fait pas deux, ça fait un, Dieu et l'homme. Et ça, c'est la manifestation de qui est Dieu, sa bonté. Et c'est aussi la révélation de qui est l'homme. Parce qu'agissant ainsi, Dieu honore sa propre dignité qu'il a mise dans l'homme fait à son image. C'est indigne de l'homme de se comporter comme Zeus ou Jupiter. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et quand Dieu agit ainsi avec nous, il se respecte lui-même en respectant son image en nous. Et si Dieu est vraiment amour et bonté, alors il va agir comme cela avec nous, conformément à qui il est et à qui nous sommes. Et c'est ainsi que sa puissance, parce que Dieu seul peut sauver, et heureusement qu'il est puissant, elle va se dire et se manifester dans la faiblesse, dans la condition humaine, et pas un super-homme, pas un chef d'État, pas un grand chef militaire. Non, une humanité modeste et même faible. Il y a là une raison de plus qui tient à nous, c'est que l'homme étant tombé si bas dans le mystère du mal, il fallait aller le réapprivoiser et prendre des chemins d'une extrême délicatesse, s'approcher délicatement. C'est aussi cela la raison de la faiblesse de l'humanité assumée par le Seigneur. C'est en raison de tout le travail que le salut suppose vis-à-vis de nous qui sommes si loin. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est dans la pénétration de cette sagesse divine ainsi à l'œuvre que nous saisissons vraiment l'intime, si je puis dire, de la religion chrétienne. Et c'est faute de percevoir cela que nos contemporains sont déroutés par le mystère de Noël qui faisait cependant l'émerveillement des anciens. Et vous avez certainement entendu souvent cette objection que certains font: si Dieu existait, il n'y aurait pas tout le mal qu'il y a sur terre. Beaucoup à dire sur cela, mais retenons simplement, dans le contexte d'aujourd'hui, quelle vision de Dieu cette affirmation exprime, d'un Dieu tout-puissant, manipulateur, qui nous tiendrait dans les fils d'une marionnette. C'est pas, Dieu n'est pas celui-là et l'homme n'est pas celui-là. Il faut aller jusqu'à saisir la dignité humaine pour voir en quoi elle reflète celle de Dieu et donc de comprendre la relation de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Concilions et même réconcilions, frères et sœurs, la puissance qui n'est que de Dieu et la faiblesse qui est vraiment nôtre, et dans la communion que nous venons établir avec Dieu ici et maintenant, que la puissance de Dieu nous sauve et sauve ce monde. Amen.